16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
L'heure du choc des cerveaux a sonné. Mais attention, pour l'emporter dans le quiz, il ne suffit pas d'être érudit. Il faut aussi avoir du flair. Or, Stéphane Bern peut-il être considéré comme quelqu'un ayant du flair ?
Non.
Voilà. Voilà, ah non. Voilà, voilà qui je suis. Nanana, nanana.
Ça, c'est la chanson de l'Eurovision ?
Ouais. Elle est belle, cette chanson.
Ah, elle te plaît ? On va gagner ?
On est troisième.
Bah, on a fini deuxième. Parce que vous, vous disiez qu'on allait finir dernier.
Je n'ai rien dit du tout, moi. Je ne prends pas position.
J'ai vu le mépris dans
pas
lequel vous
tenez l'Eurovision. J'adore Barbara Ravi.
Vous avez regardé ?
J'ai évidemment regardé, parce que je regarde tout ce que vous faites, Stéphane. Chaque secret d'histoire, quand je ne suis pas là, je les enregistre.
Oui,
sur
la
VHS, évidemment. Et l'Eurovision, j'étais là. Vous avez dit troisième, on a fini deuxième. Mais aurez-vous autant de flair pour le quiz ? Ça serait pas mal. Jouons à Ferme to be Alive. Stéphane, la première question est évidemment pour vous. Question littérature. 1884, c'est la publication par Verlaine d'un recueil de poèmes appelé « Jadis et naguère ». De la musique avant toute chose, et pour cela préfère l'impair plus vague et plus soluble dans l'air.
Sans rien en lui qui pèse ou qui pose.
Un point, déjà, pour Clémentine Portier-Kaltenbach. Je lui donne un point parce que c'est magnifique quand même, elle a réussi à finir la citation.
Ouais.
La question est la suivante. Autrefois, quand on disait naguère, ça signifiait il y a plus d'un an. Vrai ou faux ?
Je crois, oui.
Oui. Oui.
Vous avez perdu.
C'est faux. Naguère signifiait et signifiait toujours il n'y a guère. Donc ça veut dire récemment. Question numéro 2. Pour vous, Clémentine Portier-Kaltenbach. C'est en 1473 que naît l'astronome polonais Nicolas Copernic, on en a parlé ici.
Ah bah oui, on a fait une émission spéciale.
On a fait une émission spéciale, on lui doit l'héliocentrisme. La Terre n'est désormais plus immobile et toutes les planètes ne lui tournent pas autour. En 2005, dans la cathédrale de Frombork, en Pologne, on trouve des ossements qui pourraient bien être ceux de Copernic. En 2008, c'est confirmé. L'ADN de son crâne est le même que celui que l'on a retrouvé dans un livre qu'il a consulté toute sa vie, 465 années plus tôt. Vrai ou faux ?
Alors, c'était lui, ça je me souviens très bien, parce qu'évidemment, toutes ces histoires-là sont fascinantes. J'ai du mal à croire qu'on ait pu trouver de l'ADN dans un livre qu'il avait feuilleté, encore que. Est-ce que vous pensez que l'ADN a pu survivre dans un livre ? C'est quand même très fragile, hein, l'ADN. Mais c'est vrai, c'est pas si... Vous voyez, quand on pense retrouver de l'ADN de Napoléon dans les mèches de cheveux, il faut qu'il y ait des bulbes, il faut que ça n'ait pas été exposé au plomb. Est-ce qu'on a pu trouver de l'ADN ? Écoutez, non. Moi, je pense qu'on a pu l'identifier, oui. On a peut-être identifié son ADN avec des descendants à lui, mais je n'arrive pas à croire qu'on l'ait identifié grâce à un ADN.
Vous répondez ?
Je réponds non.
Vous avez perdu.
Et vous avez perdu.
Incroyable.
Car c'est une histoire de cheveux. L'histoire tient parfois
à
un cheveu.
Il avait laissé un cheveu
dans un livre. Ce fameux livre qui a conté, il était là.
C'est pas juste, écoutez.
Ce livre, aussi, Stéphane, quel était le titre de ce livre ?
C'est son fameux livre sur les
celui que vous dites si bien en latin.
Voilà, donc je suis incapable de
le calendarium romanum magnum.
Oui, enfin, oui.
Moi qui allais vous donner un point. Donc,
Non, ne me donnez
pas
de point.
C'est tout à fait injuste parce que vous m'avez délibérément induite en erreur. C'est grâce à un livre. Donc ça donnait à supposer qu'à la façon du nom de la rose, l'ADN était déposé par le feuillage du livre,
non,
par le
fait d'avoir tourné les pages. Vous n'avez pas parlé d'un cheveu qui était dans le livre.
On a identifié son ADN par un cheveu.
Non,
le juge répondait oui.
Pardon, Clémentine. Mais à moins de saigner de l'ongle. Vous ne mettez pas d'ADN en...
Mais bien sûr que si.
Des empreintes digitales.
Des empreintes digitales, oui, mais pas... Il faut que vous saigniez ou que vous laissiez quelque chose...
La peau.
Non,
mais écoutez,
il faut s'écorcher.
Stéphane, il paraît qu'on est...
On peut
échantillonner l'ADN du Christ avec les pellicules contenues sur le Saint-Suaire. Je pense qu'on pourrait tout à fait échantillonner un ADN de quelqu'un qui aurait feuilleté un livre. Parce qu'il y a des fragments de peau, voyons.
Nous sommes face à un cas de contestation.
Je n'aime pas du tout la contestation.
Tout de suite, un point est retiré à Clémentine. Immédiatement, un point est retiré. Moins un. C'est comme ça que ça se passe ici. Question numéro 3 pour vous.
Si j'aurais su, j'aurais pas vu.
Nous sommes donc à égalité. Question numéro 3.
Mais donc ça le fait rire.
Quand c'est dans son sens, il est très content.
Sors du secours, Belzébuth.
Question numéro 3, Stéphane. Concentrons-nous. La France, attention, c'est peut-être une question. La France a eu un président de la République noir. Et je ne parle pas d'Emmanuel Macron après avoir fait trop de jet ski. Vrai ou faux ?
C'est Gaston Monnerville.
Mais il est par intérim.
Attention, je vous demande si c'est vrai ou faux, mais vous pouvez adapter votre réponse.
Il y a toute une histoire autour de ça, parce qu'il devait l'être en tant que président du Sénat.
Exactement, le président du Sénat est traditionnellement le président de la République par intérim.
Donc ça aurait dû être Gaston Monnerville.
Ça aurait dû être Gaston Monnerville.
Voyons voir si vous avez bien répondu.
Vous avez gagné.
La régie est de bonne humeur aujourd'hui. Vous avez plus ou moins gagné, mais comme Clémentine a beaucoup participé à votre
réponse.
Oui,
elle peut avoir un demi-point.
C'est un demi-point. Vous avez chacun un demi-point. Non, c'est... La réponse était... La réponse était... Le tout, c'est qu'on soit toujours à égalité.
Ce quiz va finir par durer 20 minutes.
Bon, mais il dure déjà.
Un quart de point.
Il dure déjà souvent plus de 20 minutes. Stéphane, la réponse était faux, mais on aurait pu... avec Gaston Monnerville, qui fut président du Sénat de 1958 à 1968. S'il y avait eu une vacance du pouvoir, l'ancien député de la Guyane aurait pu remplacer De Gaulle. Voilà, vous avez chacun un demi-point. Question numéro 4, Clémentine. L'expression « pédaler dans la choucroute » vient de la Première Guerre mondiale. Il y a un lien avec nos adversaires allemands. Vrai ou faux ?
Alors, c'est tout à fait faux, parce que cette expression vient du Tour de France, en fait, où les voitures William Saurin et autres boîtes de conserve étaient toujours à l'arrière du peloton. Et donc, pédaler dans la choucroute, ça voulait dire être tout à fait au fond du peloton, et avec les voitures faisant la promotion des boîtes de conserve pour du cassoulet et de la choucroute.
Stéphane, qu'est-ce que vous pensez de cette réponse ?
Je trouve que c'est formidable, la réponse.
Vous pensez que donc, ça a été inventé comment, pédaler dans la choucroute ? C'est un rapport...
Oui, parce que vous savez... Avec nos amis allemands, dans les moments difficiles, on pédalait pas tellement.
Non, on faisait autre chose, effectivement. Donc, pédaler dans la choucroute, selon vous, Stéphane, ça vient du Tour de France.
Ça vient de là, oui, je pense.
Vous avez gagné.
Vous avez gagné, mais comme Stéphane vous aussi vous a aidé, puisqu'il nous a dit. Il nous a dit, Stéphane, les auditeurs sont témoins.
Ah non, mais arrêtez,
Stéphane
là,
nous a dit,
apportez-moi des
ça
selles.
Vient du
là,
Tour
non,
de
non,
France.
Non, non, non.
Oh, c'est dommage. Encore des demi-points qui se partagent. Et bonne réponse à tous les deux, finalement. C'était faux. Oh, mais l'expression vient du Tour de France.
C'est le moment le moins historique de l'émission, mais le plus drôle.
Voilà. L'expression vient du Tour de France, effectivement. Bah, vous avez déjà tout dit, on s'en fout. Question numéro 5.
Voilà, c'est sa question.
C'est la question
qui va. Je vais encore perdre. Voilà, ça va être ça, là, sur 1, 2, 3.
Écoutez, histoire de la littérature. En 1969 est publié le roman en lipogramme La disparition de Georges Perec. Oui. En lipogramme, c'est quand certaines lettres de l'alphabet manquent. En l'occurrence, dans La disparition, le c'est le E. Et vous n'avez pas de point puisque ce n'est pas ma question. Oui, en 2004 est publié aux éditions Pascal Petiot Le train de nulle part, un roman de Michel Dancel. Qu'est-ce qu'il n'y a pas dans ce roman ? Quatre propositions. Il n'y a pas de train, il n'y a pas de verbe, il n'y a pas de A, sauf dans le titre, ou il n'y a pas de titre.
Il n'y a pas de A.
C'est faux, une autre réponse.
Il n'y a pas de train.
Il n'y a pas de titre.
Une autre réponse.
Il n'y a pas de verbe.
Oh, vite, un fauteuil à l'Académie française pour ce génie de la littérature qu'est Stéphane Bern. Effectivement, il n'y a pas de verbe. Il a tout lu. Il a lu Balzac, il a lu Flaubert. Il a lu Michel Dancel. C'est incroyable, c'est du jamais vu, Stéphane. Mais comment faites-vous ? Mais pour avoir le temps de tout lire, de tout savoir, il n'y a pas de verbe, effectivement. Bravo, Stéphane remporte.
Il n'y a pas de verbe pour décrire une telle imposture.
Il n'y a pas de mot pour décrire cette victoire. Bah, je vous dis quand même, puisque j'ai parlé de ce livre, le roman fait 233 pages. 233 pages sans verbe, ça donne quoi ? Ça donne ça. Quelle aubaine, une place de libre ou presque dans ce compartiment, une escale provisoire, pourquoi pas. Donc ma nouvelle adresse dans ce train de nulle part, voiture 12, troisième compartiment dans le sens de la marche, encore une fois, pourquoi pas. Et voilà.
C'est d'ailleurs très, très digeste, hein. c'est pas du tout.
Sur 233 pages, je ne suis pas sûr que ce soit aussi digeste, mais enfin, vous pouvez vous le procurer, probablement.
Bon, je m'incline devant une telle érudition.
Bravo, Stéphane.
Europe 1, historiquement vôtre.